Chapitre 64. Sans marquer le moindre arrêt, Gabriel s'enfonçait toujours plus dans les méandres de la campagne belge. Un peu avant Mons, à une encablure de la frontière avec la France, il avait bifurqué sur des routes secondaires, non éclairées, perdues dans la nuit. Il avait commencé à pleuvoir une demi-heure après son départ de chez Pascal Croisil. Une pluie drue, aux gouttes comme du gravier s'explosant sur la voiture et le forçant à une concentration décuplée malgré les essuie-glaces activés à plein régime. Gabriel se fiait aux indications de son GPS. Une fatigue nerveuse pesait sur ses épaules, lançait des arcs électriques dans sa nuque, mais le feu brûlait en lui. Il aurait tout le temps de se reposer plus tard. Les découvertes de ces dernières heures l'imprégnaient encore. Et il s'apercevait que plus il avançait, plus les questions se multipliaient. Quel lien unissait Caleb Traskman et Henri Chmielnik? Les deux artistes semblaient développer un attrait particulier pour le morbide. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Croisil connaissait-il l'origine réelle du tableau en sa possession? Gabriel se heurtait à des murs, et le temps écoulé jouait contre lui. Ça le rendait fou. La voix synthétique du GPS lui indiqua de tourner à gauche sur une route qu'il distingua au dernier moment. Un kilomètre plus loin, ses phares révélèrent de hauts grillages barbelés de part et d'autre d'une grille d'entrée coulissante, rehaussée d'un mélange de pointes et de lames dissuadant clairement les curieux. Une pancarte avec des symboles de danger chimique affichait « Site dangereux, fermé et sous surveillance, propriété privée, intrusion strictement interdite sous peine de poursuite ». Gabriel immobilisa son véhicule sur cette voie sans issue et se mit en plein phare. À cause des trombes d'eau, il n'y voyait rien. Mais il avait conscience d'errer au milieu de nulle part, ou plutôt au milieu de champs. Pas une palpitation de lumière à l'horizon. La première trace de civilisation devait être à 10 kilomètres. Tout était mort. Autour de lui, la végétation se déployait de façon anarchique, jusqu'à fissurer le bitume. Il remonta la fermeture de son blouson jusqu'au col et affronta le chaos. Il tenta de faire coulisser la grille, mais elle était retenue par un énorme cadenas en forme de U. Il l'ausculta de près pour constater qu'il ne présentait aucune trace de rouille, contrairement aux barreaux ou aux barbelés. De l'autre côté, il devinait à peine les serpents de tuyaux et l'imposante silhouette noire d'un entrepôt. Il longea le grillage par la droite, les pieds dans la boue, l'eau glacée ruisselant sur ses joues. Qu'est-ce qu'il foutait ici? Il s'était emballé, mais le contenu du carnet datait de plus de 12 ans. Il n'avait plus rien à chercher sur ce vieux site à l'abandon. Pourtant, il continua, poussé par une force qu'il ne s'expliquait pas. Il avait l'espoir de repérer une faille, un endroit où le maillage d'acier serait affaibli, troué. En vain. Le franchir était donc exclu puisque le fil barbelé était à double tranchant. Des lames capables de vous ouvrir les veines comme celles des sites militaires et installées en boules épaisses 2 mètres au-dessus de lui. Alors il récupéra le cric dans le coffre de sa Mercedes et frappa sur l'anse du cadenas comme un forcené. Des vibrations dues au choc se répercutèrent jusque dans sa colonne vertébrale. Il crut ne jamais en venir à bout, mais après quelques minutes, l'anse céda enfin. Gabriel s'était arraché la peau des mains. Il laissa l'eau soulager ses paumes, alla éteindre ses phares, puis se faufila sur le site. Il passa devant une guérite de contrôle désertée, se glissa le long d'une sphère de stockage haute de plusieurs mètres. Plus loin, 4 cylindres verticaux se confondaient avec des fusées parées au décollage. Des tuyaux rampaient, des échelles grimpaient dans la nuit, courant sur des parois d'acier. Dessus, de vieilles étiquettes colorées étaient presque illisibles. Des symboles chimiques, des interdictions. Tout avait dû être vidé, nettoyé, récuré jusqu'à la dernière molécule. Gabriel ignorait ce qu'il cherchait au juste. Il se fraya un chemin entre 2 citernes grises et horizontales, fixées sur des socles de béton, s'engagea en direction d'un entrepôt situé à 20 mètres des sortes de fusées. Des montagnes de barils s'entassaient à côté de la porte d'entrée en acier. Et sur celle-ci, un cadenas en U, identique à celui de la grille. Aucun moyen d'entrer. Pas même par le quai de déchargement dont le rideau métallique avait été soudé. Il allait encore falloir y aller à coups de cric. Trempé, les muscles endoloris, Gabriel avait désormais le moral dans les chaussettes. Et pourtant, il puisa en lui la force de recommencer à battre le fer. Pour se motiver, il se convainquit que ses difficultés avaient pour seul objectif de le décourager, de l'empêcher d'atteindre son but. Mais quel but ? 5 minutes plus tard, il était à l'abri, exténué, perclus de douleur. La pluie cessa de lui glacer les os, c'était au moins ça de gagné. Dans l'obscurité du bâtiment, il déclencha la vive lumière de son téléphone en mode torche. Le simple souffle généré par ses pas anima des diamants de poussière dorée. Il balaya l'espace du regard, scruta les parois sans repérer la moindre caméra de surveillance. Le panneau de l'entrée ne devait être que de l'intimidation. Il explora les lieux, passa devant un Algeco ouvert, posé sur des parpaings, dépouillé de son contenu, et progressa dans les entrailles de l'entrepôt. Après un large couloir, il s'aventura entre des allées d'alvéoles d'une dizaine de mètres de haut. Il eut l'impression d'évoluer au cœur d'une ruche infinie. Presque tous les compartiments hexagonaux contenaient de gros barils de couleurs différentes, tous couchés. Il y en avait à vue de nez plusieurs centaines. Il observa ceux situés à son niveau. Les couvercles avaient été cerclés pour ne pas être retirés, et Gabriel cogna du poing sur quelques-uns d'entre eux. Vide. Heureusement d'ailleurs, vu leur contenu. En effet, il découvrit sur les étiquettes que les barils verts avaient renfermé de l'ammoniac, les rouges de l'hydroxyde de sodium, les jaunes de l'acide chlorhydrique. Quant au noir, plus épais et imposant, il était question d'acide fluorhydrique, l'un des acides les plus puissants. Pas celui dilué et vendu dans le commerce. On parlait ici de milliers de litres au pourcentage très élevé. Quoi de mieux pour faire disparaître un corps ? Certains de ces produits pouvaient désintégrer un être humain jusqu'à la dernière cellule en moins d'une journée. Il ne s'agissait alors pas d'un corps qu'on enterrait, brûlait ou jetait dans l'océan. C'était un organisme qu'on rayait purement et simplement de la surface de la Terre, sans en laisser le moindre milligramme d'ADN. Et Caleb Traskman le savait. L'écrivain, qui avait vécu à une centaine de kilomètres d'ici seulement, avait cité cet endroit dans la liste des meilleurs moyens de se débarrasser d'un cadavre. Gabriel en eut le cœur au bord des lèvres. Il était inconcevable que Julie ait été amenée sur ce site, qu'on l'ait... Il n'osa formuler le mot qui, malgré tout, vint heurter le seuil de sa conscience. Dissoute.